Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marsili.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Alors que Roland-Garros vient de se conclure, que la finale de la Ligue des Champions vient d'avoir lieu et que le Tour de France s'approche à grands pas, nous allons rentrer dans un cycle d'épisodes thématiques avant notre pause estivale. Et nous débuterons celui-ci dès aujourd'hui par un épisode spécial consacré aux élections européennes qui se tiendront en juin 2024.
Au programme de cet épisode, nous évoquerons donc les enjeux politiques, à la fois français et internationaux, de ces élections européennes de 2024, avec un état des lieux des forces politiques en présence.
Puis nous discuterons plus largement des grands défis de l'agenda européen sur la période 2024-2029, dans un contexte international très incertain, où les menaces se font de plus en plus fortes, et dans lequel la qualité de l'architecture institutionnelle européenne, entre la Commission, le Conseil et le Parlement, sera déterminante.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à parler de deux grands hommes, chacun dans leur genre, le président polonais Lech Walesa, à travers le documentaire d'Arte, Le syndicaliste et le général, et puis un très grand dirigeant du monde des médias et du football, Adriano Galliani, à travers ses mémoires qui viennent d'être publiées. Jérémy, nous prenons donc le risque aujourd'hui de parler des élections européennes, d'élections qui n'intéressent pas vraiment les foules, ou plus exactement, qui ne les intéressaient pas, car la donne a quelque peu changé. Les élections européennes ont traditionnellement connu, par le passé, des taux de participation assez bas, voire très bas. Je me souviens, quand j'étais petit, dans mon village, à Piedoretza, du bureau de vote particulièrement vide ce jour-là, et d'un scrutin qui embêtait un peu tout le monde, car non seulement il n'y avait pas beaucoup de votants, mais en plus, ce scrutin se terminait extrêmement tard, bien plus tard que les élections nationales habituelles à 18h, de manière à ce que tous les votes se terminent plus ou moins en même temps en Europe, ce qui faisait durer le plaisir, si j'ose dire. Et puis, les choses ont empiré lorsqu'en France, dans les années 2000, nos gouvernants de l'époque ont eu la géniale idée de créer des circonscriptions électorales, régionales, pourrait-on dire, au nombre de 8, mais sans aucune cohérence politique ni identité culturelle. Ce n'étaient pas les régions habituelles, c'était des grandes régions. Par exemple, en Corse, pour les européennes, on votait dans une circonscription d'un très large quart sud-est, avec les Lyonnais ou les Alpins, ce qui éloignait encore davantage les citoyens de cette élection. Mais à partir de 2019, les choses ont changé. D'une part, on est revenu en France à un vote par soutien de liste nationale qui a rendu l'élection plus lisible et également plus intéressante médiatiquement. Et d'autre part, le rôle du Parlement européen est désormais mieux compris. D'où un taux de participation de 50% en 2019 en France, totalement dans la moyenne européenne, alors qu'on était plus proche de 40% par le passé, voire plus bas. Et puis, il se pourrait que ces élections européennes intéressent davantage encore la prochaine fois, en juin 2024. D'une part, parce qu'au niveau français, il s'agira de la première élection depuis 2022, et donc ces élections européennes seront la première et seule fenêtre d'expression démocratique avant la séquence électorale de 2026-2027, sauf dissolution bien sûr, et d'autre part, parce que la question européenne est toujours plus centrale dans les débats, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise économique. Pour toutes ces raisons, on souhaitait aujourd'hui établir une espèce de rapport des forces en présence, un an pile, avant cette élection.
Alors Romain, tu as dit que nous prenions le risque de parler des élections européennes, mais c'est vrai que je pense que je et nous sommes fiers de prendre ce risque. Parce que d'abord, c'est en lien direct avec l'ADN de notre podcast, qui est de parler d'Europe, que ces élections européennes, comme tu l'as très bien rappelé, sont absolument cruciales, à la fois dans le contexte évidemment très particulier dans lequel l'Europe est aujourd'hui, mais plus généralement parce que la tendance que l'on a vue au cours des dernières années, c'est un Parlement européen qui n'a pas cessé de voir ses prérogatives se renforcer, parfois des prérogatives qui d'ailleurs sont mal connues de nos concitoyens, et donc si on veut lui apporter encore plus de légitimité démocratique, si on veut un Parlement européen qui résonne plus avec les aspirations, les espoirs, mais aussi les craintes de nos concitoyens, il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte autour de ces élections, il faut qu'on parle des enjeux, et je crois que c'est tous les deux, c'est un peu aussi la mission que l'on assigne à notre podcast, parce que ce mandat de parlementaire européen, moi je suis convaincu que c'est un mandat absolument superbe, où si on travaille dur, on peut avoir un vrai impact sur la vie de nos concitoyens. Il y a cette statistique qui est souvent mal connue, mais 85% aujourd'hui de la législation qui est adoptée au niveau national, c'est de la transposition de législation européenne. Ça te montre toute l'importance dans tous les pans de notre vie de l'Europe aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est aussi important d'en parler parce que tu parlais de désintérêts qui étaient peut-être liés historiquement au mode de scrutin, mais aussi probablement parce que nos partis politiques n'ont pas joué le jeu pendant longtemps. On n'a pas envoyé au Parlement européen des gens qui étaient convaincus par l'Europe, des gens qui voulaient se battre pour l'Europe. On envoyait au Parlement européen, et là, au-delà des clivages partisans, souvent des gens qui étaient les battus de la politique nationale, qui prenaient un siège au Parlement européen en attendant d'être rappelés sur la scène nationale, des personnes qui partaient à Bruxelles, voyaient ça parfois même comme une condamnation, on les envoyait loin de Paris. Et je crois qu'au contraire, le Parlement européen, c'est un Parlement absolument clé, où il faut envoyer des gens qui ont envie de travailler pour l'intérêt général européen, connaissent les problématiques européennes et sont capables de s'inscrire dans le temps long, parce que le Parlement européen, et on reviendra peut-être dessus, c'est un Parlement où ta légitimité en tant que parlementaire européen se construit au fur et à mesure des mandats. Dans un premier mandat, tu essaies de prendre des postes de rapporteur, dans un second mandat, tu peux potentiellement accéder à une présidence de commission, et c'est comme ça que tu as un impact. Et la France, parce qu'elle n'a pas souvent su jouer cette carte, a vu son influence au Parlement européen être probablement plus faible qu'elle aurait dû être. Et puis, dernier point, quand évidemment tu vois les élections européennes simplement comme une manière, parce que tu y accordes peu d'importance, d'exprimer ta colère et que donc tu envoies juste des extrêmes au Parlement européen, bah ça a conduit la France à être souvent sous-représentée dans les groupes, on va dire un peu centristes, les plus influents au Parlement européen. Et ça, ça va être aussi un enjeu des prochaines élections. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'on voulait revenir dessus. Et puis, évidemment, parler aussi de ces équilibres et ces dynamiques politiques européennes qui sont souvent mal connues de nos concitoyens et qui sont pourtant cruciales et qui auront un rôle crucial dans les années à venir.
Disons que le débat sur l'Europe a un peu évolué également. C'est-à-dire qu'on a longtemps payé, et je pense qu'on le paiera toujours, les conditions assez médiocres de validation ou de non-validation d'ailleurs par les citoyens, des nouveaux cadres institutionnels. En l'occurrence, le référendum de 2005 sur la constitution, entre guillemets, pour l'Europe, qui avait été refusé, puis finalement qui est passé en force par notre voie, la voie parlementaire, et un autre traité, mais le traité de Lisbonne. Donc la question institutionnelle était assez centrale. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette question est totalement derrière nous. Et maintenant, l'essentiel est de parler des politiques européennes. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, maintenant le cadre est celui que tu as exposé. Beaucoup de choses se jouent au Parlement. Et la question de savoir si les politiques, les décisions, les votes vont dans le bon sens ou pas, comment réfléchir à aller dans un meilleur sens. Lorsque le gouvernement français, et ça nous arrive d'en discuter, prend des directions qui nous semblent négatives, personne dirait bah, « on est contre la France ». On va détricoter la France parce que tel gouvernement prend de mauvaises décisions. Je crois que maintenant, le débat doit être le même pour l'Europe. Si on estime que la Commission européenne ou que le Parlement européen prennent des mauvaises décisions, ben on en débat. Et pour en débattre, il faut, et tu l'as rappelé, des élus de qualité. La France a un contingent très important au Parlement, puisque c'est la deuxième délégation après l'Allemagne. On a 79 parlementaires européens, l'Allemagne en a 96 et l'Italie est juste après, elle en a 76. Donc on est vraiment ce sont les trois pays qui comptent le plus numériquement, même si des pays comme l'Espagne et puis la Pologne, on en reparlera peut-être plus tard, ne sont pas très loin. Donc la France peut et doit peser. Il va de soi que tout ça, c'est une architecture politique. On ne va pas faire des listes des députés qui travaillent, des députés qui ne travaillent pas, mais finalement, c'est le cas dans tous les partis, dans tous les clivages. Ce qui est certain, c'est que le Parlement européen, et c'est ce dont je voulais parler avec toi tout de suite, c'est très souvent des alliances et des coalitions, puisqu'il y a plus de 705 députés européens, la majorité est à 353, la majorité absolue, et il y a plusieurs groupes au Parlement européen, qui représentent d'ailleurs les clivages qu'on connaît en France, centre-droit, centre-gauche, enfin, on peut rentrer dans le détail, et traditionnellement, il y a deux groupes qui pèsent plus que les autres, le PPE, donc on va dire les partis de droite traditionnels, que ce soit le Parti Populaire en Espagne, LR ou UMP en France, CDU, bien sûr, CSU en Allemagne, on pourrait continuer. Et puis, l'autre parti important, c'est celui qui s'appelle officiellement Alliance progressiste des socialistes et démocrates, mais en gros, ce sont les sociodémocrates, la gauche, avec, pareil, hein, la SDU en Allemagne, le Parti Socialiste en France, etc., etc. Et généralement, ces deux grands blocs avaient réuni une majorité absolue au Parlement européen, ce qui la permet de faire une espèce de grosse coalition. Depuis 2019, ce n'est pas le cas. Le Parlement est beaucoup plus éparpillé. Il y a des centristes, il y a des extrêmes, à gauche comme à droite. D'ailleurs, les extrêmes droites recouvrent des réalités très différentes au Parlement européen qui ne sont pas forcément celles que nous connaissons dans le débat public. Et donc, l'important, c'est aussi que des parlementaires français puissent peser dans ces groupes majoritaires.
Tout à fait. Alors, il faut revenir peut-être en détail sur quels sont ces groupes politiques dont on parle. Si on part, on va dire, de l'extrême gauche et si on va jusqu'à l'extrême droite. À l'extrême gauche, tu as un groupe qui s'appelle La Gauche, donc The Left en anglais, qui regroupe aujourd'hui 38 eurodéputés sur 705. C'est là où siègent, par exemple, les parlementaires européens issus de la France insoumise. Bon. Ensuite, tu as le groupe des Verts. Les Verts, c'est 71 parlementaires européens actuellement. Ensuite, tu as le groupe SND, donc les sociaux-démocrates, les socialistes, le groupe socialiste, c'est 145 parlementaires européens. C'est là où, historiquement, tu le disais, c'était un des groupes les plus importants, c'est là où, historiquement, siégeaient en France les eurodéputés socialistes, c'est là où, par exemple, les places publiques, le groupe de Glucksmann. Ensuite, tu vas au centre, tu as le groupe Renew. Donc Renew qui avait été lancé, qui est effectivement ce nouveau groupe, qui a été voulu par le président Macron, qui réunit côté français notamment les parlementaires issus de la majorité présidentielle. Donc tu retrouves des parlementaires européens issus de Renaissance, issus du Modem, issus d'Horizon, issus du Parti Radical. Et aujourd'hui ce groupe c'est 102 parlementaires européens. Ensuite centre-droit, le groupe historiquement le plus fort au Parlement européen, le PPE, dont on parle parfois régulièrement, toi et moi, dans nos échanges. C'est donc le Parti populaire européen qui, lui, réunit les partis de droite traditionnels. Et c'est là que tu retrouves la délégation française des Républicains. C'est aujourd'hui le principal groupe au sein du Parlement européen, avec 176 eurodéputés. Puis ensuite, si tu continues un peu plus à droite, tu as le groupe des conservateurs et réformistes européens, CRE, qui est un groupe assez disparate, où historiquement, tu avais les conservateurs britanniques, quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, les deux principaux groupes au sein du CRE, c'est à la fois le parti polonais du PiS, le parti droit et justice qui est au pouvoir à Varsovie, et puis le parti de Giorgia Meloni en Italie. Et puis ensuite, tu vas encore plus à droite, tu as le parti ID, donc Identité et Démocratie, qui est le groupe d'extrême droite, où tu as notamment les parlementaires européens du Rassemblement National, et puis tu as ensuite un groupe de non-inscrits non alignés au Parlement européen. Donc ça, c'est un petit peu les forces en présence. Comme on le voit, par définition, tu le rappelais, au cours de la mandature 2019-2024, pour obtenir des accords sur des textes, pour obtenir la majorité, il a fallu qu'il y ait des accords entre groupes. Donc très souvent, ce que l'on a vu, c'est que le faiseur de roi un peu qui était centriste était Renew, le groupe centriste, et donc sur certains textes, Renew se mettait plutôt parfois avec la gauche, donc les sociaux-démocrates et les verts, sur notamment un certain nombre de textes qui étaient liés au pacte vert, et puis sur d'autres textes, plutôt avec le PPE, donc le centre-droit. Mais tu avais aussi pas mal de textes où tu avais une alliance plus large entre les socialistes, les conservateurs et Renew. Et donc la question qui se pose pour 2024, c'est de savoir comment l'équilibre entre les principaux groupes va évoluer. C'est un petit peu ce dont on veut parler. Sachant que de cet équilibre entre groupes va naître évidemment un agenda législatif au niveau européen différent, mais aussi les nominations des principaux postes européens, et notamment le triumvirat, président de la Commission européenne, président du Conseil européen et haut représentant, c'est-à-dire la personne en charge de la diplomatie européenne.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on parle souvent de politique internationale, des élections dans les différents pays. On dit souvent qu'il ne faut pas faire de rapprochement trop hâtif. Il y a bien sûr des différences fondamentales de culture politique parfois entre des partis qu'en France, dans les médias, on rapproche. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. L'exemple le plus frappant étant Meloni et Le Pen, qui sont très différentes sous de nombreux aspects, dont les partis ne siègent pas dans les mêmes groupes au Parlement. Donc, on parle de tous ces partis, et puis là, finalement, le Parlement européen, c'est l'endroit où ils se réunissent selon leurs vraies affinités culturelles, et puis selon, bien sûr, les rapports de force politiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout ça en dynamique, c'est-à-dire que lors de, bien sûr, les élections vont créer une nouvelle assemblée, et des nouvelles alliances peuvent se faire, mais on voit bien que ces groupes-là ne sont pas figés. Tu rappelais le groupe conservateur réformiste. C'est un groupe dans le passé siégeait les troupes, on va dire, de Giorgia Meloni. Il siégeait les conservateurs britanniques. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Donc, ce groupe-là, comment il évolue? Est-ce que c'est un groupe qui considère à l'extrême droite ou est-ce que cela devient l'allié naturel du PPE? Est-ce qu'une alliance pourrait se faire? Jusqu'à présent, c'était assez inimaginable. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de pays, ces différents partis, entre de droite centre-droit et de droite un peu plus souverainiste, eh ben, en fait, ils gouvernent ensemble dans les pays en question. Pourquoi ne pourraient-ils finalement pas travailler ensemble à Bruxelles? C'est une question qui se pose. Giorgia Meloni, par exemple, son parti se pose la question, va-t-il rester dans ce groupe conservateur et réformiste ou va-t-il rejoindre les rangs du PPE pour peser plus? Donc tout ça est totalement dynamique. Et un petit point, tu parlais du groupe Renaissance, Renew, c'est un groupe qui traditionnellement était le groupe des libéraux au Parlement européen, qui est un groupe très centriste, modéré. Aujourd'hui, bien évidemment, étant donné les résultats des dernières élections européennes en France, c'est le groupe En Marche, Renaissance, français, les députés français qui constituent l'essentiel du contingent de ce groupe. Or, bon, tu connais l'analyse de ce groupe et de l'identité politique de Renaissance et du macronisme. Pour moi, ce sont tous sauf des libéraux. Donc le fait qu'ils aient pris, on va dire, le pouvoir dans ce groupe centriste a aussi bouleverser la dynamique. Et c'est ça qui, tous les 5 ans, à chaque élection européenne, est remis en cause comme une élection nationale. Et donc, c'est une élection qui, quand on aime la politique, longtemps c'était vu comme, et je voyais ça aussi comme ça, il y a 10-15 ans, comme quelque chose d'assez barbant. Berlusconi, de manière provocatrice, avait parlé, il y a maintenant 20 ans, des députés européens comme des touristes de la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, il y a encore pas mal de touristes, malheureusement, et c'est encore plus regrettable lorsque ce sont des touristes français qui ne défendent pas la voix de la France au Parlement européen. Mais l'identité politique de ce Parlement est réelle. Il y a beaucoup d'activistes, malheureusement, qui jouent parfois un rôle métapolitique et qui est très discutable. Mais c'est un endroit où il faudrait, lorsqu'on veut vraiment faire avancer les choses, se battre.
Et alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que, alors évidemment, les élections auront lieu dans un an. Donc, on ne va pas rentrer dans le jeu des prédictions. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est d'essayer de voir quelles sont les dynamiques aujourd'hui au niveau européen. Au cours des 18 derniers mois, tu as eu pas mal d'élections nationales où tu as vu un recul des partis sociaux-démocrates et en revanche, une droite qui a repris un certain nombre de gouvernements. Ça a été le cas, par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, en Suède, en Finlande. On vient de voir en Espagne une défaite très importante du Premier ministre Pedro Sanchez aux élections régionales et municipales. Il va y avoir des élections anticipées générales le 23 juillet en Espagne. Donc on va voir si le Parti populaire, donc le parti de droite qui historiquement est le parti espagnol rattaché au PPE, va reprendre le pouvoir à Madrid. Ce qui est très important parce qu'en fait, le poids de ces partis européens est également lié au nombre de dirigeants qu'ils ont autour de la table du Conseil européen. Et historiquement, la force du PPE, c'est que beaucoup de dirigeants européens étaient liés au PPE. Et notamment à l'époque Merkel, bien, par définition, Merkel et la CDU sont liés au PPE. Aujourd'hui, la vraie rupture, une des vraies ruptures, c'est que le PPE est, en termes de nombre de parlementaires européens, le principal groupe du Parlement européen, mais en revanche, a aujourd'hui assez peu de dirigeants, notamment de grands États membres, autour de la table du Conseil européen. Et on en avait parlé dans un épisode récent, le principal dirigeant lié au PPE au niveau national, c'est Kyriakos Mitsotakis, donc le dirigeant grec. Et donc, une des questions pour le PPE, ça va être de savoir s'ils sont capables, notamment en Espagne, de récupérer un dirigeant. Ce que tu vois aussi, une dynamique qui est intéressante, c'est que si on regarde maintenant le groupe des centristes, des libéraux, on s'aperçoit que dans pas mal de pays européens, les libéraux, ceux qui sont liés au mouvement Renew, sont un petit peu en recul aussi dans les sondages. Si on regarde côté, par exemple, en Allemagne, le FDP, donc le Parti libéral, qui est historiquement rattaché à ALDE et aujourd'hui à Renew, est assez bas dans les sondages. En Hongrie, le mouvement Momentum, qui était aussi un mouvement d'opposition à Orban, est aussi assez bas dans les sondages. En Espagne, Ciudadanos, qui était le parti un petit peu de centre-droit, libéral, qui était aussi rattaché à Renew, qui avait quand même 8 députés européens, on aura probablement beaucoup moins l'année prochaine, parce que Ciudadanos est en chute libre aussi, le parti a quasiment disparu du paysage politique espagnol. Et donc, tu vois, tu as aussi ces équilibres à prendre en compte. Alors, ensuite, au-delà de ces équilibres, donc on va voir déjà comment les dynamiques nationales vont nourrir l'agenda européen, et on a encore un an pour le voir. Mais une fois que les élections auront lieu, tu auras la question effectivement des alliances entre partis. Et un des grands débats aujourd'hui à Bruxelles, c'est de savoir si le PPE, donc le groupe de centre-droit historiquement, va se rapprocher du groupe conservateur et réformiste européen, CRE, qui est à sa droite, c'est plutôt les conservateurs traditionnels, c'est là où, je le disais, il y avait les Tories britanniques historiquement, et aujourd'hui où les deux plus grands mouvements sont le Parti Droit et Justice et le Parti de Meloni. Juste un point là-dessus. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'au sein du groupe conservateur et réformiste européen, le Parti de Meloni et le Parti Droit et Justice n'ont rien à voir ensemble. En fait, le Parti le groupe conservateur et réformiste européen, c'est un peu l'attelage de deux partis qui ont assez peu en commun. Parce que tu vois bien que le parti Droit et Justice, en Pologne, c'est un parti qui s'éloigne de plus en plus de l'état de droit, qui tombe dans un nationalisme extrêmement refermé sur lui-même, assez délétère. Là où Mélanie, elle est effectivement conservatrice, elle n'a pas caché parfois dans le passé une forme d'euroscepticisme, mais néanmoins, elle sait bien en Italie qu'elle a besoin de l'Europe, qu'aujourd'hui, l'Europe a beaucoup de fonds très importants pour l'avenir de l'Italie. Et donc, elle est sur un positionnement qui est différent. Et donc, ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est au-delà des questions des alliances possibles futures entre le PPE et CRE, et moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une alliance entre les deux groupes, parce qu'elle me paraît très, très compliquée, et que par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le principal adversaire du parti Droit et Justice en Pologne, c'est Donald Tusk, et donc la plateforme civique qui sont eux-mêmes rattachés au PPE, ce qui, à mon avis, rend de toute façon toute alliance de fait entre le PPE et le CRE impossible à court ou moyen terme. Je pense qu'en revanche, effectivement, comme tu le disais, une des vraies questions sera de savoir si à un moment, Mélanie décide plutôt de se rapprocher du PPE.
Et puis de voir quel sera le poids des centristes. Bon, il y a deux questions, moi, qui me semblent clés. C'est la première, c'est celle que tu viens d'indiquer. Quelle va être la nouvelle alliance? On peut imaginer, en tout cas espérer, que le PPE restera la force centrale dans cette nouvelle assemblée. Ne faisons pas de pronostic. Mais de quel côté il se tourne? Est-ce qu'il a besoin toujours de faire alliance, non seulement avec les sociaux-démocrates, ce qui a toujours existé, mais aussi avec des forces un peu plus extrêmes, hein, et comme les Verts. Alors les Verts européens, ce ne sont pas les Verts français, mais bon, il y a quand même souvent, à mon avis, des certaines dérives qui sont contradictoires avec les valeurs libérales. Quelle va être aussi l'évolution de ce groupe libéral? Comme je te le disais, moi je pense qu'il a été, n'y vois pas là un jugement moral, mais le groupe libéral européen a été un peu, en quelque sorte, perverti par l'arrivée massive en son sein d'un groupe politique, en l'occurrence Renew, qui est tout sauf libéral. C'est pas une insulte en soi, mais de fait, pour moi, il est très loin d'un parti allemand comme le FDP ou alors des quelques députés du Benelux qui étaient des libéraux au sens fort, politique et économique du terme, ce que ne sont pas du tout les députés européens En Marche, qui pour la plupart sont quand même des adeptes d'une technocratie et d'une social-démocratie assez nette. Et d'ailleurs, beaucoup viennent des rangs socialistes. Ce n'était pas le cas de la tête de liste, mais bon, c'est le cas quand même de l'essentiel des troupes. Et l'autre question, alors plus nationale, mais c'est ça qui est aussi, je trouve, est intéressant dans les élections européennes, c'est comment ces enjeux-là, européens et nationaux, en l'occurrence français pour nous, se rejoignent. C'est quelle va être l'influence de la France au sein de ce parti PPE. Il se trouve qu'aujourd'hui, la France, en tout cas LR, qui la dernière fois a fait un résultat qui avait été jugé comme mauvais, 8%, mais qui, au regard des élections suivantes, est un résultat brillant, notamment si on compare à l'élection présidentielle, comment se maintient LR? Il se trouve que donc LR a envoyé quand même comme tête de liste une personnalité qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais qui a compris moi que je l'appréciais, et qui très objectivement a fait un grand travail au sein du Parlement européen, qui est François-Xavier Bellamy. Sans rentrer dans le fond, c'est quelqu'un qui parle d'Europe, lui, chaque semaine. Il rentre dans le concret, il rentre dans les débats, et il met les questions européennes sur la table. Encore une fois, les réponses, on les apprécie, on les apprécie pas, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ces députés européens qui, à mon sens, font honneur au travail parlementaire. Et puis, c'est un des Français, il y en a quelques-uns dans son groupe, qui ont un poids, qui sont repérés, qui sont visibles au sein du PPE et qui comptent. Aujourd'hui, étant donné les résultats de LR aux précédentes élections en France, se pose la question du poids, voire même de l'existence de parlementaires français au sein du PPE. Donc ça, je trouve que c'est une vraie question, parce que c'est presque un enjeu, je vais dire, pour la France. S'il n'y a pas de parlementaires français au sein du groupe majoritaire, c'est encore une fois notre influence qui est malheureusement amoindrie.
Oui, et là, je pense qu'il faut expliquer pourquoi, très concrètement. Aujourd'hui, le PPE, c'est 176 eurodéputés. Et la délégation française, c'est 8 eurodéputés sur 176. Donc, par définition, le groupe français est très faible, en fait, au sein du PPE, parce qu'on a beaucoup moins de parlementaires que les Espagnols, que les Allemands de la CDU, etc., etc. Et donc, ça veut dire aussi, très concrètement, qu'au moment où, par exemple, sont attribuées les différentes commissions, les différents postes de président de commission, de rapporteur, donc les postes clés, ceux qui vont avoir vraiment une influence majeure sur la législation, sur la manière dont les textes sont décidés, sont votés, eh bien, par définition, la délégation française, malgré les qualités que tu rappelais de François-Xavier Bellamy ou des autres, peu importe, au-delà des clivages politiques, eh bien, la France a peu de poids, en fait, peu d'influence. Et donc, elle n'est pas en mesure de pousser certaines de ses idées. D'où l'importance d'avoir des délégations importantes au sein de ces groupes. Et d'où l'importance, pour un parti comme LR, d'envoyer des gens au Parlement européen qui sont vus comme crédibles, qui sont vus comme travailleurs, et probablement d'envoyer, s'ils veulent faire un score important, des gens qui, plutôt que d'être débattus de la politique nationale ou des gens qui n'ont pas la réputation de bosser au Parlement européen, d'envoyer une nouvelle génération d'élus qui sont des gens qui connaissent l'Europe, la comprennent et ont envie de se battre pour elle. Donc ça va être un défi, comme c'est un défi d'ailleurs pour tous les groupes politiques. À l'inverse, pourquoi Renew a eu vraiment un leadership français au cours des 5 dernières années? Parce que tu avais 23 eurodéputés du groupe français sur un total de 102. Donc ça permettait aux eurodéputés français d'avoir beaucoup de poids. Une des questions, c'est de savoir si au sein de Renew, la délégation française va continuer d'avoir son leadership sur la prochaine mandature. Tu l'as dit, c'est pas du tout certain, parce que tu as effectivement un certain nombre de gens plus libéraux au sein du groupe Renew qui voudraient probablement revenir à ce qu'était l'ADN précédent de ALDE, comme ça s'appelait avant, c'est-à-dire un ADN plus libéral. Donc ça fait partie des enjeux. Ça nous amène également à rappeler que, évidemment, sur le chemin de ces élections européennes, il va y avoir deux élections clés au niveau européen dans les prochains mois. Une que l'on a mentionnée, l'élection en Espagne, en fin juillet, qui aura effectivement un impact déterminant sur l'équilibre des forces au niveau européen. Évidemment, une que j'ai oubliée, mais qui arrive fin juin, mais qui est plus vue peut-être, même si on ne peut jamais parler d'une formalité sur le plan des élections, mais celle en Grèce, où Mitsotakis arrive en position de force. Et puis évidemment, celle très très importante, qui aura lieu en octobre, en Pologne, où la question sera de savoir si le Parti Droit et Justice pourra encore repartir sur un troisième mandat, ou bien si on aura enfin une alternance avec Donald Tusk et la plateforme civique.
Enfin, dans ces trois pays, l'équilibre va quand même pencher très significativement à droite. Alors en Pologne, reste à voir quelle droite. Et puis les dernières élections, notamment dans les pays du nord de l'Europe, aussi montrent un relatif basculement vers la droite. Donc le Parlement européen devrait quand même être un peu plus à droite. Maintenant, encore une fois, quelle va être la stratégie d'alliance de la force centrale de droite. Juste un petit point, bien sûr, le nombre un peu condamne, parce que tu dis, oui, il y a 8 eurodéputés LR sur à peu près 180, il y a des chances que la proportion soit à peu près identique, un peu plus, un peu moins, dans la prochaine assemblée. Parfois, tu peux compenser un nombre un peu faible par, c'est une assemblée, c'est un parlement, par le poids des mots, par la rhétorique, par le travail. Et c'est pour ça que c'est important que quand tu en sélectionnes 8 ou 10, eh ben les 8 ou les 10, alors ils ne peuvent pas forcément tous être du niveau de François-Xavier Bellamy, mais tous au moins se battent et mouillent le maillot pour la France. Je reviens à ton point de départ dans ta première intervention tout à l'heure, lorsque tu disais que souvent les partis envoyaient les battus de la politique. Alors attention, hein, le choix des partis, malheureusement, on sait très bien comment ça fonctionne globalement. Ce n'est pas toujours les meilleurs qui sont élus, les meilleurs qui font de la politique. On le sait. C'est le jeu démocratique. Et s'il y avait que les gens intelligents qui gouvernaient, ça serait. Et heureusement, ce n'est pas ça d'ailleurs, parce que la démocratie, ça demande bien d'autres qualités que la compétence. Sinon, ça deviendrait une pure technocratie. En revanche, dans la plupart des élections, tu as toujours le filtre du peuple qui, avec sa sagesse, avec son bon sens, arrive très souvent à distinguer les bonnes personnes. Là, nous sommes dans une élection très différente, puisque nous sommes dans une élection proportionnelle à scrutin de liste national. Et donc, de fait, ce sont les partis qui font l'élection. Ce sont eux qui choisissent, qui mettent. Ce qui ne veut pas dire que je n'enlève pas tout le mérite aux candidats. Mais si demain, le groupe socialiste ou le groupe Renaissance, qui sont sûrs d'avoir plusieurs députés, décident de mettre un âne en deuxième ou troisième position, l'âne sera élu. Donc les partis politiques, on dit que les partis ne comptent plus, on voit bien qu'ils sont toujours importants. Ils ont peut-être des forces de nuisance, des forces de proposition de candidats, des forces de mise en orbite d'élus. Et donc là, les partis ont un rôle essentiel. Donc maintenant, au-delà des petits jeux politiques, se pose une question, je dirais, d'intérêt national, notamment pour un parti comme LR. Est-ce qu'ils veulent envoyer des gens qui vont se battre pour la France, ou alors est-ce qu'on fait de la politicaille?
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, avant les dernières élections européennes qui avaient eu lieu en 2019, j'avais publié dans le Figaro une tribune que j'avais intitulée de manière un petit peu provocatrice « Les partis doivent enfin envoyer leurs meilleurs élus au Parlement européen. Et en fait, il y avait aussi une autre idée derrière cela. C'est que quand tu regardes d'autres pays, comme l'Allemagne, mais également d'autres pays, sont rentrés plutôt dans une tradition d'envoyer souvent des jeunes élus prometteurs au Parlement européen. Et quelle était l'idée de ces partis, quelle que soit la place sur le spectre politique, des Verts à la gauche en passant par la droite, c'était de dire on va envoyer des jeunes qui vont se battre, qui ont envie de se battre pour l'Europe, de travailler pour l'Europe, quelles que soient leurs idées. Ils vont passer 2-3 mandats au Parlement européen et donc ils vont grandir au sein du Parlement européen, prendre des commissions clés, avoir de l'influence. Mais aussi, quand ils reviendront ensuite sur la scène politique nationale, tu auras des personnes qui connaîtront les dynamiques européennes et qui donc sauront parler d'Europe sur la scène politique nationale. On auront compris les dynamiques, auront compris les forces en présence, auront bâti aussi un réseau au niveau européen qui sera incroyablement utile. Et ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que tu voyais que aux dernières élections en Allemagne, par exemple, ceux qui se présentaient à la chancellerie, pour la plupart, avaient été des gens qui avaient commencé ou à un moment dans leur carrière politique, avaient été parlementaires européens. C'est donc des gens qui avaient une connaissance fine de l'Europe, quelle que soit l'opinion qu'ils avaient ensuite sur cette Europe. Et donc je pense que pour nous, pour notre débat national, ça serait aussi incroyablement riche et intéressant d'avoir des gens qui ont servi l'Europe, ils ont vraiment passé du temps, contrairement à un certain nombre de leaders nationaux qui ont été parlementaires européens mais qui ne connaissent absolument rien à l'Europe parce qu'ils allaient juste à Strasbourg ou à Bruxelles pour prendre leur rémunération mais en aucun cas pour s'impliquer dans les travaux et qui en revanche la connaissent et donc sont capables de parler et de débattre de l'Europe de manière éclairée.
Voilà, c'est un lieu de pouvoir, donc d'un lieu de pouvoir, eh ben, il faut occuper le terrain. Et ça, je crois que c'est important. Il y aura bien sûr, on l'a dit, pour chaque grande politique, que ce soit au niveau national ou international, il y a des enjeux. Bien sûr, la question se pose aussi pour la gauche, en termes de choix tactiques. Est-ce qu'elle décide en France ? Et c'est intéressant, là, le lien entre national et international, dans le cas français, la NUPES se pose la question, est-ce que la NUPES va ensemble aux élections ? Alors bien sûr, cela, les insoumis poussent à cela, puisque cela renforcerait leur mainmise. Mais en même temps, dans une élection à la proportionnelle et sans prime majoritaire, les principales forces de la NUPES, c'est-à-dire les insoumis, les Verts et les socialistes, on va dire pour résumer, étant quasiment toutes certaines d'avoir au moins 5%, il n'y a pas d'intérêt politique, arithmétique, à ce qu'elles se mettent ensemble pour avoir plus de parlementaires. En revanche, ce serait quand même bizarre d'avoir des gens qui s'allient au niveau national pour avoir des politiques radicalement différentes au niveau européen, car tu aurais une même liste NUPES, et puis certains se placeraient dans un groupe de majorité, de grande coalition social-démocrate, et puis d'autres qui iraient dans une frange extrême-gauche avec Podemos, avec Syriza. Donc on voit toujours quand même que les questions de logique, d'habileté politique se joue également dans cette élection. Et puis, en termes de fond, au-delà de la gauche, là on parle plutôt de questions de droite, on voit bien qu'il y aura bien une question centrale qui traverse absolument tous les pays dans cette élection européenne, c'est le rapport à l'immigration. Car les citoyens ont bien compris que la question migratoire, qui maintenant est essentielle, qui dans un pays comme la France, dans beaucoup de pays, fait quasiment l'objet d'un consensus, sauf auprès de certaines élites bien pensantes, cette question-là étant primordiale, les gens ont compris qu'elle se joue en grande partie au niveau européen. Et donc, finalement, là tu devrais peut-être en être satisfait, le fait que des questions comme ça deviennent centrales peuvent permettre de rendre les débats liés à l'Europe plus centraux.
Tout à fait. Je pense qu'un des défis de l'Europe, c'est d'avoir plus de chair. En l'occurrence, le fait que des questions qui animent nos concitoyens trouvent leur réponse, ou tout du moins doivent être posées au niveau européen, contribue à animer, à rendre vivant le débat européen et à créer un vrai débat politique au niveau européen. Tu le disais, la question migratoire, ça sera un des grands enjeux des élections européennes, incontestablement. Mais il y a d'autres questions extrêmement importantes. Il y a notamment la question de savoir comment tu vas être capable de garder un équilibre entre une Europe qui continuera d'être ambitieuse dans la lutte contre le changement climatique, sur le plan environnemental, mais qui en même temps, pour autant, ne tombera pas dans une forme d'idéologie verte qui condamnerait son industrie et sa compétitivité économique. Et donc, comment tu auras une Europe qui sera parfois moins réglementaire, moins tatillonne en termes de bureaucratie, permettra à nos entreprises de continuer de se développer, permettra à l'industrie européenne de continuer de se renforcer, permettra une réindustrialisation de nos territoires européens, parce que c'est au niveau européen que se jouent ces enjeux-là. Aujourd'hui, tous les grands défis en termes de comment tu recrées une industrie des semi-conducteurs au niveau européen, comment tu fais de l'Europe une terre d'innovation qui n'est pas simplement une terre où tu régules, mais où tu crées aussi, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, du spatial, de bien d'autres technologies qui vont façonner le monde de demain, sur le quantique, etc. Tout ça va se jouer au niveau européen. Ça sera un enjeu des élections européennes. Également la question de la souveraineté européenne, c'est-à-dire dans quelle mesure tu as une Europe qui essaie de porter une voix différente du reste du monde par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, sur le plan géopolitique, mais sur le plan également commercial, sur le plan économique. Tout ça va se jouer au niveau européen. C'est évidemment la guerre en Ukraine. Tu vois bien que tu as un certain nombre de forces politiques qui ont sur l'Ukraine des visions différentes. Si demain, tu as un Parlement européen qui est dominé par les extrêmes des deux côtés, l'extrême gauche et l'extrême droite, tu auras un Parlement européen qui, par définition, est une Europe qui sera beaucoup moins crédible sur la scène internationale. Ça va être aussi un des vrais enjeux. Parce que le vrai risque aujourd'hui, c'est que tu aies en fait un renforcement des deux blocs extrêmes du Parlement européen et donc soit un agenda législatif qui soit complètement bloqué, mais aussi une Europe qui perde vraiment beaucoup de crédibilité sur la scène internationale. Donc ça, c'est un petit peu tous les enjeux qui seront discutés au niveau européen.
Oui, mais là, je pense qu'il faut faire attention, ne pas rentrer, c'est pas ce que tu fais, hein. Mais je vois le truc venir dans la campagne, dans cette année qui arrive, votez bien. Et là, je crois, parce que si vous votez pas bien, et les extrêmes vont triompher, et les méchants, parce que c'est toujours pareil, le truc assez binaire, encore une fois, c'est pas tout ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a un risque de polarisation dans ce débat, autour de, êtes-vous pour une Europe souveraine, ou pour une Europe qui perdrait de son poids. Là, je pense que si les termes sont posés comme ça, et la majorité présidentielle en France va tenter de poser les termes comme ça, je pense que c'est un très mauvais service rendu à l'Europe. Par exemple, tu as compris, mais beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont très pro-européens, mais qui ne veulent pas entendre parler de concepts comme souveraineté européenne, parce que la souveraineté ne peut être que nationale. Donc, je crois que l'Europe bénéficierait à être, comme d'ailleurs tu l'as dit en partie, sur des questions concrètes, migration, politique de défense, enjeux culturels, et là, je crois que ça donnera de la chair au combat européen, et non pas repartir, parce que on sait que certains partis vont encore une fois tenter cette tactique-là, qui est payante pour eux, car c'est une martingale, le bien contre le mal, et les pro-européens contre les anti-européens. Je pense que ce n'est pas rendre service au débat européen, parce qu'encore une fois, le débat aujourd'hui, il n'est plus si on est pro ou contre l'Europe, il est sur quelle politique à mener au niveau européen.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on débat d'Europe de manière nuancée et jamais de manière binaire dans ce podcast. Mais je crois aussi qu'il faut être très clair sur le fait que pendant des années, les gens ont voté pour les élections européennes en disant « finalement, j'exprime ma frustration, ma colère aux élections européennes et ça n'a pas d'importance. Et je vote pour les extrêmes, pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite, j'envoie des délégations et de toute façon, voilà, comme ça, je mets un coup de pied dans la fourmilière, mais ça n'a pas d'importance. » Si, ça a de l'importance. Aujourd'hui, sur les enjeux, par exemple, de réindustrialisation, sur la capacité à créer de nos emplois, notamment pour nos concitoyens les plus modestes, dans les régions les plus pauvres en France, là, celles qui ont été justement déindustrialisées dans le passé, eh bien, les fonds qui financent cette réindustrialisation sont mis en œuvre au niveau européen. Les politiques d'innovation sont mises en œuvre au niveau européen. Si on envoie des gens qui sont des extrémistes de gauche ou de droite, qui n'ont aucune vision de l'économie, évidemment, c'est nos concitoyens qui vont en souffrir. Et ça, il faut qu'ils en prennent conscience, en fait. Le Parlement européen peut sembler loin de nos concitoyens, mais il a un impact direct sur leur vie. Si demain, on envoie des groupes extrêmes qui, par leur méconnaissance des enjeux agricoles, sabordent la politique agricole, ça va être nos agriculteurs qui vont en souffrir. Ça va être la compétitivité de notre agriculture qui va en souffrir. À l'inverse, on peut aussi considérer que si on envoie certains Européens, BA, ou bien des idéologues du climat au Parlement européen, nos agriculteurs vont aussi en souffrir. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un débat sur, par exemple, la question agricole au niveau européen. Comment on est capable de bâtir une agriculture qui, bien sûr, répond aux enjeux environnementaux, climatiques, mais demeure compétitive et fait en sorte que notre élevage, nos cultivateurs continuent de prospérer et même beaucoup plus parce que beaucoup souffrent aujourd'hui en France. Tous ces enjeux-là seront importants.
Alors espérons, sachant qu'en France ce sont des élections très particulières puisque ce seront les seules élections, comme on l'a dit tout à l'heure, nationales, d'envergure depuis 2022 et avant la période 2026-2027. Donc le risque que cette élection soit finalement ramenée à des enjeux très nationaux internationaux existe, il est normal, il est humain. Alors bien sûr, les élections sont dans un an, il peut se passer beaucoup de choses sur la scène politique française dans les 12 mois qui viennent, remaniement, dissolution, crise sociale, enfin on peut tout imaginer, donc on ne va pas faire de pronostics, mais ce qui est certain, c'est que ces élections vont constituer également une soupape démocratique, un moment d'expression. Alors, par définition, c'est salutaire. Est-ce que ce sera salutaire pour l'Europe ? Mais c'est malheureusement inévitable, étant donné que le fait que le Parlement ait été un peu ratatiné ces derniers mois, que la démocratie sociale, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup vécu non plus à cause de la question des retraites. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont inévitables et qui sont aussi sains. Il faut maintenant espérer que les élections quand même garderont un débat qualitatif, mais cela dépend aussi de la responsabilité des partis et des choix de personnalités qu'ils enverront à ces élections. En tout cas, Jérémy, je pense qu'on peut être quasiment certain qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. C'est maintenant le moment de parler de nos coups de cœur de la semaine. Et toi, justement, tu voulais parler d'une personnalité qui est un héros national polonais, mais qui est aussi, par les valeurs qu'il dégage, par les valeurs qu'il défend, par son charisme, un héros européen.
Oui, mais héros de plus en plus controversé, notamment en Pologne, dans le contexte ultra-partisan que connaît la Pologne aujourd'hui. Alors, je voulais parler d'un documentaire qui est intitulé « Le syndicaliste et le général », qui a été réalisé par l'allemand Holger Preusche, qui est actuellement disponible sur Arte, et qui revient sur la confrontation entre le syndicaliste, donc Lech Walesa, effectivement grande figure qui a incarné la fin du communisme en Pologne et le combat contre le communisme, et le général Jaruzelski, qui dirigeait le régime communiste dans les années 80 en Pologne. Alors, sur le papier, on ne peut pas trouver deux figures plus opposées. D'un côté, le modeste ouvrier des chantiers navals de Gdansk, Walesa, qui est d'un charisme incroyable, plein d'humour, pétillant, un sens de la répartie incroyable, et qui donc, par ce charisme, arrive à rallier autour de lui d'abord des milliers d'ouvriers sur le chantier naval, puis des millions et des millions de Polonais. Et face à lui, Jaruzelski, qui est un ancien combattant polonais de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait une carrière militaire fulgurante, qui est un homme raide comme un piqué, qui en plus, c'est malheureux pour lui, mais il avait une maladie des yeux, donc il était obligé de porter des lunettes noires en permanence, et qui évidemment a amené à une comparaison peu flatteuse avec Pinochet chez beaucoup de ses concitoyens. Et pour autant, tu t'aperçois qu'en fait, tout est plus nuancé, c'est-à-dire que ces deux hommes s'opposent, mais en même temps se respectent. Au final, et même Walesa le reconnaît, ce sont deux patriotes polonais. Jaruzelski, en fait, voulait quand même maintenir l'indépendance polonaise par rapport à Moscou. Le catholique dans cette histoire, c'est Lech Walesa, qui est un fervent catholique, là où Jaruzelski a complètement, lui, perdu sa foi devant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça va être la confrontation entre ces deux hommes. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, ce qui se passe, tout commence avec, évidemment, d'abord, des grèves dans les années 70 qui sont durement réprimées par le régime polonais. Il y a 42 morts sur les chantiers de Gdansk. Et en juillet 1980, nouvelle vague de grève, mais à ce moment-là, et création de Solidarnosc, donc le premier syndicat libre du monde communiste. Mais là, les syndicalistes autour de Walesa vont beaucoup mieux se préparer, se barricader sur le chantier naval Lénine, qui était le chantier naval où travaillait Walesa. Et donc, tu vas rentrer dans une phase d'abord de négociation entre Walesa, qui à ce moment-là, à l'été 1980, devient une célébrité dans le monde entier, et le régime communiste de Jaruzelski. Cohabitation très compliquée, qui aboutit le 13 décembre 1981 à une décision absolument cruciale de Jaruzelski, qui décide d'imposer la loi martiale en Pologne, d'arrêter la plupart des dirigeants de Solidarnosc et également Walesa. Ce qui est intéressant, c'est que Jaruzelski expliquera plus tard qu'imposer la loi martiale, c'était pour lui la seule manière d'éviter que les troupes du pacte, dit ironiquement de Varsovie, envahissent à ce moment-là la Pologne et Varsovie. Parce que Moscou voyait d'un très très mauvais œil les négociations entre le régime communiste et Solidarnosc, mettaient une pression croissante sur Jaruzelski. Les troupes de l'armée rouge et du pacte de Varsovie menaient des exercices dans l'est de la Pologne et donc menaçaient d'envahir Varsovie. Évidemment, ça c'est encore sujet à débat aujourd'hui, mais Walesa est enfermé, il a cette phrase très belle, il dit « le jour où il est arrêté, on peut me tuer, mais pas me battre ». À ce moment-là, Walesa rentre vraiment dans le combat politique. En 1983, il devient un peu intouchable parce qu'il se voit attribuer le prix Nobel de la paix cette année-là. Et puis, Finalement, Wałęsa sera libéré un petit peu plus tard et les deux hommes vont s'affronter pendant une décennie et ce documentaire revient là-dessus jusqu'à ce que Wałęsa succède finalement à Jaruzelski à la présidence de la République en décembre 1990. Ce documentaire, je le trouve passionnant parce qu'il montre plusieurs choses. Il montre d'abord que, y compris dans ce combat pour la liberté, et tu le disais, Wałęsa incarnait le combat contre le communisme, contre le diktat soviétique, et bien en fait, les combats sont faits parfois de nuances de gris. Que en fait, y compris entre ces deux hommes, c'était pas noir et blanc. Qu'il y avait un respect mutuel. Que Wałęsa est quelqu'un qui s'est battu pour aller vers la voie du compromis, parce qu'il considérait que si Solidarnosc essayait de mener une révolution directement face au pouvoir communiste, il serait réprimé, il perdrait la bataille. Et que donc, parfois, il fallait mieux avancer à coups de petits compromis, à coups de négociations, et ça a probablement été le génie politique de Wałęsa de le faire sur une décennie. C'est ce qui, finalement, a permis de créer des brèches dans le régime communiste, de fissurer. Et finalement, on dit parfois que le mur de Berlin est tombé à Varsovie, parce que c'est par Solidarnosc qu'il y a eu ce mouvement qui s'est ensuite diffusé à d'autres pays du bloc communiste. Et puis, deuxièmement, je trouve que ce documentaire est très intéressant, parce qu'il nous rappelle que si Wałęsa a fait des compromis, a su négocier, pour autant il demeure un héros, il demeure le combat de l'indépendance de la Pologne, de la liberté, contrairement à ce qu'aujourd'hui le parti au pouvoir en Pologne, le parti Droit et Justice, aimerait faire croire. Parce que le parti Droit et Justice aimerait réécrire l'histoire, expliquer qu'en fait Wałęsa était un collaborateur du Parti communiste et que finalement il n'a aucun mérite dans ce qui s'est passé, tout comme ceux qui ont été célébrés comme un peu les libérateurs. Et il y a aujourd'hui quelque chose de quasi orwellien que l'on observe en Pologne, c'est une réécriture de l'histoire par le parti de Kaczynski et par ses sbires qui sont au pouvoir en Pologne. Et d'ailleurs, un des enjeux de l'élection d'octobre dont on parlait récemment sera de savoir si la Pologne continue sur ce chemin extrêmement dangereux de la réécriture de l'histoire que l'on observe aujourd'hui. Et juste, j'ai retrouvé cette phrase que j'ai trouvée très belle de Vaclav Havel, qui décrit probablement ce qu'il dit de manière magnifique. Et lui, évidemment, qui était écrivain tchèque, dissident, prisonnier politique, qui plus tard fut le premier président de la République tchèque, a écrit cette phrase qui résume parfaitement ce que l'on observe aujourd'hui en Pologne quand on voit le régime au pouvoir s'en prendre à Lech Wałęsa, et je cite Vaclav Havel. Peu de temps après la Révolution et après avoir retrouvé la liberté, un type d'obsession anticommuniste très précis s'est propagé. Comme si ceux qui pendant des années s'étaient tus et montés très prudents, pour ne pas tomber, soudain ressentaient le besoin de repousser par un geste puissant leur soumission d'alors et les sentiments qui plus tôt ne s'étaient pas exprimés. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu vois des gens comme Kaczynski et ce pouvoir à Varsovie prendre pour cible les ex-dissidents comme s'ils étaient leur mauvaise conscience. Et donc ce documentaire nous permet de peut-être mieux comprendre cela, mieux comprendre ces dynamiques. Et donc, c'est un documentaire que je conseille vivement, Le syndicaliste et Le général. Romain, je crois que toi, tu voulais nous parler de quelque chose de complètement différent, les mémoires d'Adriano Galliani, qui nous ramène dans ce Milan AC qui t'est si cher.
Oui, Jérémy, je voulais te parler de ce qui constitue sans nul doute les meilleures mémoires d'un Adrien, depuis ceux écrits par Marguerite Yourcenar. Mais il ne s'agit pas là de l'empereur romain Adrien, mais d'une personnalité bien plus contemporaine et presque aussi politique, un très grand dirigeant dans les médias et surtout dans le football, Adriano Galliani. Et à travers lui, indirectement et un peu à vif, je vais également rendre un hommage à la grande figure qui lui est indissociable, Silvio Berlusconi, qui vient de décéder. Alors que nous enregistrons cet épisode, ce qui m'attriste naturellement beaucoup et dont j'évoquerai la mémoire dans un autre épisode. Mais revenons à Galliani, qui doit être extrêmement triste en ces heures. Il est aujourd'hui le directeur général du club de football de Monza en Italie, mais il est principalement connu pour avoir été l'un des principaux bras droits de Silvio Berlusconi, à la fois en tant que dirigeant de son groupe télévisuel, Mediaset, et plus encore pour avoir été le principal dirigeant de son club, l'AC Milan, entre 1986 et 2016, période dans laquelle le Milan de Berlusconi et Galliani aura accumulé les titres et révolutionné le football. Alors bien sûr, avec une telle œuvre et une telle expérience, on pouvait imaginer que ses mémoires, exclusivement centrées sur la période milaniste de Galliani, qui a aujourd'hui 79 ans, seraient grandioses et passionnantes, et c'est bien le cas. Galliani prévient d'entrer. Ceci n'est ni les annales de Tacite, ni même un almanach Panini, mais quelques fragments d'amour pour le Milan qui fut ma vie. Néanmoins, si nous ne sommes ni dans Tacite, ni dans Adrien vu par Yourcenar, ce livre est passionnant par le recul qu'il propose sur le monde du football et par ricochet sur les médias et sur la politique. Tout d'abord, ses mémoires soulignent l'importance des rencontres, souvent liées au hasard et au destin, dans une carrière professionnelle. Galliani était certes passionné de football, il raconte dans quelques pages très poignantes son amour pour le club de sa ville, Monza, qu'il voyait jouer avec sa mère, disparue très jeune, mais rien ne le prédestinait à être dirigeant d'un club comme Milan. Sauf que Galliani, qui était à l'origine un géomètre, avait par hasard rencontré un fabricant d'antennes de télé dans un mariage, avec qui il avait fini par s'associer. On parle là des années 80, il n'y a encore ni télévision par satellite, ni rien. Et Galliani, par la suite, va faire la rencontre d'un entrepreneur très ambitieux qui veut se lancer dans la télévision et veut créer des chaînes de télévision nationales privées, ce qui était interdit alors en Italie, puisqu'il y avait un monopole des chaînes publiques, la RAI. Cet entrepreneur ambitieux, Silvio Berlusconi, pour contourner le système, veut constituer un regroupement de chaînes régionales qui diffuseraient toutes plus ou moins au même moment les mêmes programmes partout en Italie, et pour cela il a besoin d'un réseau d'antennes. La connexion Berlusconi-Galliani est faite, les deux hommes resteront inséparables jusqu'au bout, et Mediaset est lancé. Et quand, quelques années plus tard, Berlusconi, qui est un supporter de l'AC Milan depuis tout petit, décide sur un coup de tête, au cours d'un week-end, de racheter son club de cœur qui est au bord de la faillite, il décide d'en confier les rênes à celui qui, dans son entourage, s'y connaît le plus en foot et a une expérience en la matière en tant que dirigeant du plus modeste club de Monza, Adriano Galliani. La vision flamboyante et esthétique de Berlusconi, la méthode et la malice de Galliani conduiront en quelques années Milan sur le toit de l'Italie, de l'Europe, puis du monde, en privilégiant un jeu offensif totalement révolutionnaire pour l'époque, celui d'Arrigo Sacchi, que Berlusconi lui-même avait choisi comme entraîneur, et avec quelques recrues phares pendant toutes ces années, de Marco Van Basten et Ruud Gullit au début, et puis beaucoup plus tard, Weah, Shevchenko, Kaka et tant d'autres. Et c'est donc l'autre point majeur que ce livre souligne, l'importance des convictions fortes dans les domaines vraiment importants, et on parle là bien sûr de foot, pas de politique. Les résultats peuvent varier, tant la chance peut jouer dans un sens ou dans un autre, mais il faut toujours s'en tenir à une ligne. Et la ligne du Milan de Berlusconi et Galliani était celle du beau jeu, d'une ambition esthétique et sportive assumée, et de valeurs fortes, optimistes, respectueuses. Toute une vision globale que Berlusconi communiqua dès son rachat du club en 1986. On pense ce qu'on veut de Berlusconi et le politique, mais le Berlusconi dans le football aura poussé certaines valeurs au plus haut. Ce livre est donc bien plus qu'un voyage nostalgique merveilleux pour tous les supporters de Milan au cœur des décennies les plus glorieuses du club. Plus que les grands matchs, il raconte aussi les négociations tortueuses pour finaliser les transferts, les coups de sang des entraîneurs ou des joueurs, et puis toute l'ambiance autour du club. C'est donc plus largement un retour dans les années 80, 90, 2000 que l'on opère. On y croise des personnalités, en plus de tous les grands joueurs, aussi variés que des Bernard Tapie ou Pierre Lescure. On y parle du lancement de la 5 en France, comme du vote de confiance du tout premier gouvernement Berlusconi en 1994, le même soir que l'historique finale de Champions League remportée par Milan 4-0 contre le Barcelone de Cruyff. On y rejoint parfois aussi la grande et tragique histoire de l'Europe. Par exemple, lorsque Galliani essayait de finaliser le transfert d'un joueur très talentueux, Boban, et il rencontre à ce moment-là, pour convaincre, le père du footballeur, et qui est un colonel croate, pour vraiment le séduire définitivement. Et le père de Boban, qui est donc colonel, a une face sombre. Et de manière compulsive, pendant le dîner, il n'arrête pas de retourner les bouteilles de San Pellegrino apportées par le serveur, pour mettre en dehors de son champ de vision l'étiquette. Alors Galliani ne comprend pas un peu quel est ce tic ou ce toc, et finit par demander une explication que Boban, père, finit par donner. Il lui dit « Ben voilà, je ne peux supporter de voir l'étoile rouge qui figure en effet sur les bouteilles de San Pellegrino et qui représentait pour lui, plus encore que le communisme, l'étoile rouge de Belgrade, le symbole de la Serbie avec qui, à ce moment-là, tragique, la Croatie est en guerre. » Et le livre fourmille d'épisodes de ce genre. On en ressort nostalgique pour une époque exceptionnelle qui ne reviendra plus, mais on est aussi très heureux de l'avoir connue. On en ressort également plus sage, car ce témoignage exceptionnel a le mérite de cumuler passion pour le sport et sagesse dans la manière de Galliani de rencontrer triomphe après défaite et de recevoir ses deux menteurs d'un même front, pour reprendre les célèbres mots de Kipling. Et finalement, ces mémoires d'Adriano G., coécrite avec le journaliste italien Luigi Garlando, paru chez l'éditeur italien Piem, n'importe pas moins de sagesse que les mémoires de l'autre Adrien, et ce n'est pas la moindre des surprises de ce livre enthousiasmant.
Merci beaucoup Romain, tu as su en parler avec beaucoup de passion, et en tout cas tu as donné envie de nous y plonger. Est-ce que ces mémoires sont traduites en français ou
Non, mais elles le seront bientôt, et puis j'espère, en tout cas ça vaudrait le coup.
Bon, très bien. Mon cher Romain, merci beaucoup.
Merci à toi, Jérémy.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial. À très vite.
À très vite.